Et dans ce journal, vous retrouverez comme chaque lundi la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. L'ordre républicain est rétabli partout sur le territoire. Il reste toujours des difficultés à Saint-Louis. Le général Mathéos était ce matin notre invité à 7h30. Une nouvelle opération du COTAF, le comité territorial antifraude. Il a contrôlé la semaine dernière 42 poids lourds, véhicules miniers et de chantiers à proximité de la Tontouta. Mayotte en état d'urgence absolue. Les secours s'organisent pour soutenir les populations de l'archipel dévastées par le cyclone Chido. Et puis une visite éclair qui aura laissé un goût d'éternité aux Corses. Le pape François a quitté l'île après s'être entretenu à l'aéroport avec Emmanuel Macron. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, le rendez-vous magazine de cette fin de journal. Ce sera le Mac des Sports comme tous les lundis. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Alors évidemment, on va prendre connaissance de tous les résultats sportifs du week-end sur la scène nationale et internationale et locale. On parlera notamment de football avec la fin ce matin de la 15e journée de Ligue 1 et le PSG qui est venu à bout de Lyon.
La mise au point du Paris Saint-Germain avec un succès sur les Lyonnais qui restaient eux pourtant sur une belle lancée. Le PSG, après deux matchs nuls en Ligue 1, a remporté un succès convaincant sur l'OL 3-1, ce qui permet à Paris de reprendre sa marche en avant. Désormais 7 points d'avance en tête du championnat de France sur l'OM et Monaco.
L'actu du rugby, c'est la deuxième journée des Coupes d'Europe ou des Championnats d'Europe.
Et les derniers résultats du jour, notamment la Champions Cup où les points valent déjà cher dans ces phases de groupe. Toulouse qui a tenu son rang en donnant la leçon aux Anglais d'Exeter 64-21. Toulon qui s'est offert Glasgow au bout du suspense 30-29. En revanche, le Stade français n'a rien pu faire contre les Saracens battu 28-17. Les stadistes sont déjà en mauvaise posture, avant-dernier de leur poule.
On prendra connaissance des résultats de l'actu sport en Calédonie de ce week-end et puis nous parlerons football avec notre invité.
Avec le cas des sélections sur les voies des différentes Coupes du Monde de leur catégorie et surtout l'équipe A qui jouera notamment les demi-finales des éliminatoires de la zone Océanie en mars prochain pour le Mondial. Ce sera contre Tahiti en Nouvelle-Zélande. Nous en parlerons avec Johan Sidaner, coach de l'équipe A et responsable des sélections calédoniennes. Il sera notre invité dans ce Mac des Sports.
Le Mac des Sports à retrouver donc dès la fin de ce journal. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Bon, ben c'est pas gagné. L'annonce le week-end dernier d'un calendrier de reprise des discussions sur l'avenir institutionnel avait suscité un petit espoir, mais il aura été de courte durée. À peine annoncé qu'il était dénoncé par les indépendantistes, qui sont passés maîtres, on le sait, dans l'art de donner du temps au temps. Et à ce titre, l'Union calédonienne a le mérite de la clarté. Alors que le communiqué des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale affirme que le format politique de dialogue s'appuiera sur les forces politiques représentées au Congrès, l'UC rétorque que le FLNKS reste l'unique interlocuteur de la mouvance indépendantiste. Alors que les présidents des assemblées précisent que la méthode de négociation reposera sur les deux documents issus des travaux menés avant le 13 mai, l'UC répond que ces travaux devront être validés par les appareils politiques, dont le FLNKS. Et surtout, alors que le calendrier annoncé prévoyait une première séquence de dialogue entre forces politiques locales du 15 décembre au 15 janvier et une seconde avec l'État du 15 janvier au 15 février, l'Union calédonienne indique que les discussions ne débuteront qu'après le congrès du FLNKS, qui est prévu dans la deuxième quinzaine de janvier. Quand on sait que la date de convocation de ce congrès n'est qu'approximative et que le FLNKS dont il s'agit est présidé par Christian Théin et qu'il réunit l'UC, la CCAT, le RDO et une myriade de petits partis indépendantistes, on a le fort sentiment que le calendrier de reprise des discussions a été tué dans l'œuf. D'autant plus que le Pelican n'y souscrit pas non plus complètement et qu'il soulève plusieurs problèmes. Il s'interroge sur l'identité des négociateurs de l'État, sur la légitimité des négociateurs calédoniens et sur la validité des documents issus des travaux menés jusqu'au 13 mai. Bref, il remet tout en cause et il estime que ces discussions ne pourront commencer que quand l'État aura annoncé l'ouverture des négociations sur l'avenir. La nomination d'un Premier ministre et la constitution de son gouvernement vont peut-être permettre de répondre en partie à ces interrogations du Palika. Mais là non plus, ce n'est pas gagné, parce que le nouveau locataire de Matignon a déjà prévenu qu'il avait un Himalaya de difficultés, et on ne sait pas encore à quelle altitude il situe le dossier calédonien. L'État dont on attend la position concernant l'avenir institutionnel, mais aussi, et surtout, concernant les aides financières. A priori, les 27 milliards qu'il a accordés récemment à la Nouvelle-Calédonie vont permettre de boucler sans trop d'encombre l'année 2024. après avoir vitupéré et s'en être pris avec une rare violence à l'État et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les élus du Congrès ont en effet voté comme un seul homme la décision modificative numéro 6. Mais nous n'avons aucune garantie pour l'année 2025 tant que la loi de finances n'aura pas été adoptée. Et on craint le pire dans l'ambiance qui prévaut entre le Congrès et le gouvernement. C'est désormais la guerre ouverte et le premier conteste de façon virulente tout ce que le second négocie avec l'État. Jamais une telle défiance ne s'était ainsi étalée au grand jour entre le Congrès et le gouvernement qui en est l'émanation, au point que le président du gouvernement, Louis Mapou, lassé d'être la cible de toutes les attaques, a mis au défi les élus du Congrès de voter la censure. L'État non plus n'a pas été ménagé dans l'hémicycle du boulevard Vauban, où on l'accuse à la fois de n'avoir pas su protéger la Calédonie et de vouloir l'étrangler, comme si les élus du Congrès n'avaient pas compris que l'insurrection que nous avons vécue était inédite et que l'autonomie a un prix. Mais le Congrès et le gouvernement vont devoir cohabiter quelques mois encore, à moins d'une chute inconsidérée de l'exécutif. Les provinciales sont prévues fin novembre 2025. Autant dire que l'apaisement, ce n'est pas gagné.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous retrouvez comme chaque semaine sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter juste après notre flash de 16h cet après-midi. L'ordre républicain est rétabli partout sur le territoire, c'est ce que déclare le général Mateos, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, qui était, Elisabeth, notre invité ce matin à 7h30.
Et c'est déjà l'heure du bilan cette fin d'année pour faire le point sur l'ordre public et la sécurité, 7 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles. L'ordre a été rétabli, affirme le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
7 mois après, effectivement, nous pouvons faire un bilan qui est globalement positif puisque l'ordre républicain est rétabli sur tout le territoire. Ça, je peux vous le dire, partout, aujourd'hui, la liberté de circulation est assurée. Il y a encore quelques difficultés, vous savez, sur la route qui traverse la tribu de Saint-Louis, des difficultés qui sont mineures par rapport à ce qu'on a connu, dont je ne renie pas l'existence. Hein, ces difficultés, elles sont réelles, mais par rapport à ce qu'on a connu, elles sont mineures dans la mesure où on ne tire plus sur les gendarmes, dans la mesure où il n'y a plus de carjacking. Mais partout ailleurs, l'ordre républicain de manière globale, systématique et puis avec une vraie détermination parce que c'est bien la ligne de conduite que m'a fixé le haut-commissaire de la République de maintenir, de vraiment durcir l'ordre républicain partout sur le territoire à l'approche des fêtes de fin d'année.
La situation à Saint-Louis reste bien sûr le point chaud avec des contraintes de circulation sur la RP1 où les verrous sont toujours maintenus, mais la gendarmerie travaille à une normalisation. Nous sommes déterminés à assurer la sécurité des usagers. Déclare le général Mateos.
Nous avons un dispositif qui est conséquent avec des blindés, 300 gendarmes qui sont chargés exclusivement d'assurer la sécurité des usagers de la route. C'est le prix à payer pour leur sécurité. Nous payons ce prix qui n'est pas neutre. J'espère que la situation va s'améliorer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons tout ce qui est possible, à la fois du point de vue judiciaire, en continuant sous l'autorité du procureur public à aller interpeller les quelques personnes qui commettent encore des troubles à l'ordre public dans la tribu et sur la route, et puis en travaillant avec les coutumiers, parce que, je le souligne aussi, la tribu de Saint-Louis, c'est principalement des gens qui veulent vivre normalement, et ça j'assume complètement de pouvoir le dire. Il y a une minorité violente qui a été pour partie mise hors d'état de nuire, mais il en reste quelques-uns, et ces gens-là rendront des comptes à la justice. La justice passera avec sévérité, parce que certains commettent encore des troubles à l'ordre public en obstruant l'axe, et en empêchant ainsi cette liberté de circulation en permanence.
Et la gendarmerie incite toujours les individus violents à se rendre. Sur le reste du territoire, il y a encore quelques poches de tension, mais souvent, elles existaient avant le mois de mai, comme à Tours. La situation est aussi compliquée à Thiot, reconnaît le général Mateos. Nous lui avons demandé ce que sont devenus les 10 à 12 000 insurgés qui avaient été impliqués dans les violences de mai et juin.
Beaucoup ont été interpellés et ont déjà dû rendre des comptes à la justice. La justice a été sévère vis-à-vis de ces insurgés et beaucoup vont encore rendre des comptes. Nous avons encore un stock important d'enquêtes que nous conduisons à un rythme élevé avec des renforts importants parce que dans les renforts, je n'ai pas que des escadrons, j'ai aussi des renforts en police judiciaire et en GIGN, en police judiciaire pour conduire les enquêtes et en GIGN pour aller interpeller les auteurs des infractions. Et donc nous continuons à interpeller. Et nous avons pratiqué plus de 2500 interpellations depuis le 13 mai, interpellations qui concernent les insurgés. Et j'ai encore un stock important de pilleurs, d'insurgés, de personnes violentes à interpeller.
Et puis un point noir également, l'ordre public est rétabli, mais les cambriolages et les braconnages ont fortement augmenté. Le commandant de la gendarmerie assure qu'une quinzaine d'escadrons est mobilisée pour faire face à cette recrudescence. Et il cite l'inauguration prochaine de la brigade de Moindou, qui sera spécialisée dans la lutte contre le braconnage. Et pour faire face à la situation du territoire, les effectifs de gendarmerie seront maintenus.
Nous garderons les effectifs nécessaires pour répondre à la situation. Situation de paix, certes, de paix qui mérite tous les jours d'être confirmée. Et elle est confirmée par notre présence. Donc nous aurons les effectifs nécessaires. Le haut commissaire de la République me l'a confirmé, hein, qui est en lien avec le gouvernement, parce que la Calédonie est bien sûr un sujet prioritaire. Et puis que cette paix durement acquise, hein, durement acquise, parce que je souligne encore une fois le nombre de blessés considérables que nous avons eu, 600 blessés, 2 morts chez les gendarmes. C'est parce que cette reconquête du terrain a été extrêmement compliqué, donc cette paix difficilement acquise aujourd'hui doit être consolidée par notre présence et nous aurons les moyens nécessaires pour maintenir la paix sur le territoire calédonien.
Des effectifs de gendarmerie maintenus et qui seront notamment mobilisés pendant la période des fêtes de fin d'année.
Je n'ai pas d'inquiétude, mais nous devons veiller à ce que justement ces fêtes se passent avec la plus grande sérénité pour éviter qu'une petite partie que nous connaissons de délinquants puisse profiter de ces moments pour réitérer leur comportement, pour adopter des comportements qui s'opposeraient à cette concorde de fin d'année à laquelle tout le monde aspire. Donc nous serons vigilants aussi pour que tout se passe le mieux possible le jour de Noël et puis le 31 décembre. Nous aurons une mobilisation particulière. Les gendarmes, ces jours-là, comme d'habitude, sont engagés à 100%. Donc nous serons engagés à 100%. Et en plus avec des renforts considérables pour que justement ces fêtes de fin d'année se passent bien. Je crois que l'Académie a besoin de passer d'heureuses fêtes de fin d'année.
Et en conclusion de cet entretien, nous avons demandé au général Mathéos quel regard il porte sur cet épisode insurrectionnel. Il parle de violence extrême et même de rage, mais la gendarmerie, dit-il, a évité la guerre civile.
Nous avons évité la guerre civile, oui. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous l'avons évité parce que nous avons pu, nous les gendarmes, reconquérir le terrain. Nous avons pu aussi ramener à la raison un certain nombre de gens qui estimaient qu'ils devaient se défendre. Et puis nous avons pu neutraliser des éléments extrêmement radicaux, fanatisés, qui souhaitaient s'engager dans des actions de guerre. Alors quand je dis nous avons évité la guerre civile, c'est l'action générale de la gendarmerie sous l'autorité du commissaire de la République. Dans la manœuvre qui a été conduite, c'est aussi cette neutralisation judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. Et puis c'est aussi, je veux le souligner, les initiatives des gendarmes dont nous sommes au contact de la population. Et je crois que cette connaissance fine, très fine, familiale de la gendarmerie et de la population a permis dans bien des situations de sauver la paix parce que les gendarmes ont été un moment, les juges de paix ont pu rassembler, j'ai souvenir de rassemblements dans des brigades où les gendarmes ont invité, mais avec une vraie insistance les uns les autres à vivre en paix et à s'accorder. Donc effectivement je crois que la paix était menacée et nous avons pu par ces actions à la fois centralisées, par cette action de rétablissement de l'ordre, mais aussi par cette action judiciaire et cette action de dialogue partout sur le territoire, à éviter le pire.
Une interview du général Mathéos à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet.
Les actions du comité opérationnel territorial antifraude se poursuivent et mercredi dernier, le COTAF a organisé une opération de contrôle à proximité de l'aéroport de la Tontouta, Léo Fichou.
Oui, une opération de vérification d'un possible usage détourné du carburant détaxé sous conditions d'emploi, coordonnée par le Haut Commissariat. Elle portait essentiellement sur les poids lourds, véhicules miniers et de chantier. Par ailleurs, les services partenaires du COTAF ont procédé également au contrôle de véhicules de transport de personnes, véhicules sanitaires et véhicules de professionnels. Objectif cette fois, vérifier le respect de la législation sur le travail, des autorisations de transporter et aussi l'état des véhicules. Au total, 42 véhicules donc et 57 personnes ont été contrôlées. Les investigations ont permis de relever 17 infractions en tout genre. Des investigations complémentaires sont en cours pour donner les suites au contrôle de terrain.
Dans l'actualité, de reste de l'actualité en Calédonie, en bref, notez que la commune du Mont-d'Or organise à partir d'aujourd'hui sa première semaine de stage vacances. Ce stage offre de nombreuses activités pour les enfants et se déroule au groupe scolaire de Boulary. D'autres semaines stage vacances sont prévues du 6 janvier au 7 février.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Au cœur de Noël, l'opération du cœur de Radio Rythme Bleu pour cette fin d'année. Vous le savez, on vous sollicite et on fait appel à votre générosité pour amener à la radio des cadeaux pour les enfants et pour les jeunes jusqu'à 16 ans. Des cadeaux qui seront évidemment distribués aux familles les plus en difficulté, notamment celles qui sont touchées par les exactions par nos associations partenaires. Alors évidemment, ça s'est beaucoup intensifié. La semaine dernière, vous êtes nombreux maintenant à venir à la radio et toujours avec un petit sourire et un mot gentil pour toutes ces familles auxquelles vous pensez et qui sont dans la difficulté. Cette opération au cœur de Noël se poursuit. Évidemment, Chantal est passée ce matin à la radio.
J'ai apporté un petit hôpital Duplot que j'avais trouvé au vide-grenier de la place des Cocotiers au mois de juillet, que je pensais ramener à ma petite fille en métropole pour Noël. Et puis je me suis dit, en entendant ce matin la radio, qu'il y avait cette collègue de jouets, que j'allais en faire don à un petit enfant d'ici, en espérant qu'un jour, on aura un futur médecin ou un futur infirmier en Nouvelle-Calédonie, qui aura joué à ça à l'âge de 3 ans.
Voilà, Chantal, qui fait partie des très nombreuses personnes qui sont encore passées à la radio ce week-end et ce matin. L'opération se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche soir prochain, donc vous avez du temps pour venir à la radio. Merci à tous pour votre générosité. L'actualité dans la région et plusieurs enquêtes ont été ouvertes aux îles Fidji. Elles concernent la consommation de cocktails potentiellement dangereux pour l'organisme. 7 personnes ont en effet été intoxiquées dans un hôtel de luxe de l'archipel. Jean-Pierre Zajac.
Le ministère fidjien de la Santé a indiqué hier soir que 7 personnes âgées de 18 à 56 ans ont été admises à l'hôpital de Lautoka après avoir présenté des signes de nausée, de vomissements et de symptômes neurologiques. Parmi celles-ci figurent 4 touristes australiens et un américain. Tous étaient descendus au Warwick Resort de Singatoka, où ils sont tombés malades après avoir consommé un cocktail au bar de l'hôtel. Le ministère de la Santé et la police fidjienne ont ouvert des enquêtes afin d'établir le contenu des cocktails en question. Tard hier soir, le ministère australien des Affaires étrangères a émis un avis dans lequel il a notamment exhorté les touristes à être très attentifs aux risques potentiels liés à la consommation de boissons alcoolisées et à l'intoxication au méthanol. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h47, la première pause de ce journal dans un instant, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Découvrez l'authenticité de la pizza artisanale cuite au feu de bois chez votre pizzeria Lantanas Pizza au Vallon d'Or, ouvert du mercredi au lundi de 17h30 à 20h30 et 21h les week-ends. Commandez vite au 41 54 69. Facebook Lantanas Pizza.
Marlène Alma, Païta et Port Plaisance, 3 boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Vous cherchez une expérience unique à Nouméa ? Découvrez l'Entrecôte au 360. Un restaurant panoramique avec une vue imprenable sur le lagon et la ville. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner. Et à partir de 17h les vendredis et samedis, réservé au 23 90 90.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Mayotte n'a pas pu résister au vent ultra-violent du cyclone Chido. L'archipel est aujourd'hui dévasté, la plupart des bâtiments sont à terre, les infrastructures et notamment le réseau routier pour la plupart fortement touchés. Le bilan humain fait état officiellement de 14 morts, mais il devrait être beaucoup plus élevé. Écoutez à ce propos le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville.
C'est extrêmement difficile d'avoir un décompte officiel. Nous avons un décompte qui est lié à l'hôpital, donc des personnes que nous avons prises en charge à l'hôpital. 5 personnes en urgence dépassées, donc des personnes qui, a priori, vont perdre la vie. On a des urgences absolues. On a 5 urgences absolues. Et puis nous avons 246 personnes en urgence relative, donc des personnes qui sont blessées, mais qui s'en sortiront. Mais ce résultat-là n'est pas plausible. Quand on voit les images des bidonvilles, notamment, je n'imagine pas que nous n'ayons malheureusement pas plus de victimes que je ne pourrais pas décompter. Je le dis de façon officielle. Pourquoi ? Parce que la tradition musulmane, c'est d'enterrer les personnes dans les 24 heures. Ce qui est une tradition, évidemment, que le préfet de Mayotte ne remettra pas en cause. Et par conséquent, il sera très difficile d'avoir un bilan final.
Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, interrogé par nos confrères de BFM TV. Mayotte est aujourd'hui un archipel dévasté et l'heure est encore au constat. Guillaume Dominguez pour Europe 1.
risques sur l'île. Tout a été soufflé par la tempête, en particulier sur la face nord. Ce sont des rafales à plus de 220 km/h qui ont frappé les terres par endroits. Conséquence, les axes routiers ont disparu sous les décombres. Les usines de traitement des eaux, tout comme les lignes électriques, sont détruites. Plusieurs hôpitaux ont également été durement touchés. Et surtout, une grande partie des maisons ont été soufflées. Il faut savoir que sur l'île, près d'un tiers des habitations ne sont pas solides. Ce sont des cases en tôle. Sur place, certains habitants comme Bruno, hôtelier de Mamoudzou, ont tout simplement tout perdu.
Vous savez ce qu'on voit à la télévision avec Hiroshima, et on a l'impression qu'on est pareil, il n'y a plus rien, il n'y a que des murs. Tout est effondré, tous les arbres, les palmiers sont couchés par terre, les voitures explosées, il y en a certaines qui ont des vitres explosées, qui ont reçu des chocs et ça se voit très bien. Moi personnellement j'ai perdu le toit de ma maison, comme des milliers de personnes à Mayotte, donc j'ai plus de toit. Je dors sur un matelas par terre en espérant qu'il ne pleuve plus.
Au total, 700 militaires, pompiers et personnels soignants sont attendus à Mayotte d'ici la fin de la semaine.
Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau est attendu à Mayotte dans les heures qui viennent. La France a mis en place un pont aérien vers Mayotte depuis La Réunion. Un premier avion de la sécurité civile transportant du personnel et du matériel médical d'urgence, dont des poches de sang, est arrivé sur place. Dans les trois jours qui viennent, plusieurs avions militaires sont attendus. L'un d'entre eux doit acheminer des agents EDF et 20 tonnes d'équipement. Plus de 800 soignants, sapeurs-pompiers ou secouristes arriveront par vagues de renfort jusqu'à mercredi prochain. C'est donc le ministre de l'Intérieur démissionnaire qui est en première ligne pour gérer cette crise à Mayotte. Le nouveau Premier ministre se consacre, lui, à la composition de son gouvernement. François Bayrou va recevoir à partir de la nuit prochaine les responsables des différents partis et des groupes politiques. Il doit notamment recevoir Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement national à 19h pour nous. Consultation ensuite par ordre chronologique d'importance à l'Assemblée nationale. En attendant la composition du gouvernement Bayrou, la nomination du nouveau Premier ministre a suscité des réactions en Nouvelle-Calédonie. Vous les avez entendues dans nos différentes éditions ce week-end. Écoutez celle de Didier Leroux, ancien élu et représentant durant de longues années sur le territoire de François Bayrou.
On peut attendre de lui qu'il s'adresse aux Calédoniens pour leur dire qu'ils sont importants pour lui, que la Nouvelle-Calédonie compte, qu'il faut peut-être parler de réconciliation en même temps que de reconstruction. Je crois que c'est quelqu'un qui est perçu comme apaisant, et je pense qu'il correspond à ce dont on a besoin.
La vérité, c'est que c'est un homme de bien, c'est un homme qui a une foi qui est profondément enracinée, et je crois que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un Premier ministre qui soit dans ces conditions. De la même manière qu'il assume ses origines paysannes, il assume parfaitement sa foi chrétienne. Et je pense que c'est une indication des valeurs qui peuvent l'animer et qui, peut-être, lui permettront d'être mieux compris ou mieux écouté.
Voilà la réaction de Didier Leroux, ancien élu représentant sur le territoire pendant de longues années de François Bayrou. Notez qu'en même temps qu'il constitue son gouvernement, François Bayrou doit aussi commencer à bâtir le projet de budget de la France.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait de la nomination de François Bayrou comme Premier ministre ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Le pape François a quitté la Corse. Il n'est resté que quelques heures sur place, mais il a reçu un accueil très chaleureux. Le souverain pontife a participé à un colloque sur la religiosité populaire. C'était la raison de sa venue. Il a aussi célébré une messe à Ajaccio devant 9000 fidèles. Et avant de repartir pour Rome, il s'est entretenu avec le président Emmanuel Macron. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Finalement, le pape et Emmanuel Macron se seront vus 45 minutes en tout, échange légèrement plus long que ce qui était prévu. Le tête-à-tête a eu lieu à l'aéroport Napoléon Bonaparte après l'accueil républicain du président. Les deux chefs d'État ont évité tout sujet clivant, préférant évoquer les thèmes qui les rassemblent, comme celui de la paix en Ukraine ou encore au Moyen-Orient. Emmanuel Macron en a profité pour offrir au souverain pontife un livre sur la reconstruction de Notre-Dame, potentiel clin d'œil à l'absence du Saint-Père la semaine dernière lors de la réouverture de la basilique, et ce, malgré les multiples invitations de l'Élysée. Le chef de l'État a ensuite raccompagné le souverain pontife à son avion avant de décoller à son tour, non sans avoir échangé quelques mots informels avec Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse. Si cette rencontre avec le Saint-Père a été légèrement prolongée, elle reste particulièrement courte pour Emmanuel Macron, qui revendique une relation privilégiée particulière avec le pape François. Les deux hommes se tutoient en public, par exemple, mais cette fois, il semble semble que François ait vraiment voulu mettre en avant la rencontre avec la Corse, avec le peuple corse, loin de toute arrière-pensée politique. Et ce, malgré la polémique sur ce choix, se rendre en France une semaine seulement après la réouverture de Notre-Dame, mais dans une région bien particulière et toujours loin de Paris.
Marie-Hélène Trémollet pour Europe.